Très bon dimanche, mon Ray, comment vas-tu?
Bonjour, Patrick.
Allô, allô. Écoute, on a un programme chargé, là, mais on peut pas faire autrement que de commencer avec Carey Price. Là, on apprend qu'il lèverait fort probablement sa clause de non-mouvement. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça peut représenter pour une concession comme le Kraken de Seattle d'avoir quelqu'un comme Carey Price? Est-ce que ça serait un geste qui aurait de l'allure, selon toi, d'aller le chercher?
Absolument. Je veux pas spéculer parce qu'effectivement, la liste va sortir un peu plus tôt ce matin, puis le repêchage aura lieu mercredi, en tout cas le 21. Alors, ce que je peux dire pour ça, c'est que l'effet Marc-André Fleury à Vegas a été établi comme étant un modèle qui a réussi. Moi, je crois fermement que le Kraken de Seattle va connaître autant, sinon plus, de succès que les Golden Knights hors glace. Parce que le modèle de commercialisation, le modèle de lancement, le lancement du logo, du chandail, de la marque, les dirigeants propriétaires de cette équipe-là, le marché du Nord-Ouest américain est là, cultivé déjà dans l'univers du hockey. Ça va être un gros, gros succès. La question, c'est sur la glace. Ça, c'est plein d'impondérables que tu ne peux pas contrôler. Mais une chose que tu peux contrôler, c'est de dire qu'on s'engage immédiatement vers l'excellence, puis on va aller choisir des joueurs qui peuvent nous conduire rapidement à du succès. Le sport, c'est quelque chose qui se consomme sur le moment. Les équipes peuvent bien parler d'avenir puis de plans de 5 ans, mais à la fin, ils échangeraient tous une Coupe Stanley le plus rapidement possible pour 5 années de misère. Alors, les Golden Knights, c'est le modèle incontestable. Même encore cette année, ils avaient atteint la troisième ronde contre les Canadiens. C'est une équipe qui a prouvé qu'en allant chercher des joueurs établis de bon niveau tout de suite, on peut gagner plus rapidement. Puis ça injecte le marché avec plus de confiance, plus d'intérêt, puis on domine le marché, comme c'est le cas à Vegas. Alors pour moi, là, de regarder Carey Price, si je suis le Kraken, je me dis, s'il est disponible, s'il n'a pas eu d'entente au préalable derrière la scène, ce qui est très possible, de façon à protéger un ou l'autre, et s'il est disponible, un, t'as l'argent, deux, c'est une connexion locale, Price a joué à Tri-City, il habite encore aux États-Unis. Écoute, c'est un gars, littéralement, là, à quelques kilomètres de Seattle, Il serait une star. Puis peut-être que Price, dans sa tête, si c'est le cas, peut-être qu'il dit déjà, regarde, j'ai été au bout du rouleau avec les Canadiens et je les ai conduits à la finale. Je veux moi aussi un autre changement dans ma vie, une autre occasion, une autre opportunité. Ça se peut. Mais ça se peut qu'on dise tout ça, là, puis que dans quelques jours, on apprenne que c'était simplement une entente pour protéger Price. C'est ça.
La question que je te demandais, c'est au niveau business. Quand une équipe d'expansion a l'opportunité de mettre la main sur un Carey Price, puis il faut comprendre, là, eux, il faut qu'ils prennent un joueur dans 30 équipes. Puis ils ne pourront pas prendre des joueurs à 700-800 000. Fait qu'avoir un Carey Price à 10 millions alors qu'il faut que tu ramasses des gars à 1, 2, 3 et 4 millions dans les autres équipes, tu ne balanceras pas à la fin. Est-ce que le côté business marketing de la franchise de Seattle disent même si on n'a pas une bonne équipe, on va avoir un joueur franchise, une image sur notre franchise, ça n'a pas de prix. Est-ce que l'équipe marketing, le propriétaire embarque dans la sélection quand il y a une opportunité comme celle de mettre la main sur Carey Price pour ce que ça représente au niveau de la business?
Oui, Martin, parce que regarde l'exemple des Golden Knights. C'est Marc-André Fleury est devenu l'enfant prodige, l'enfant aimé et le visage de l'organisation. Puis le Kraken n'ont aucune raison de penser qu'ils ne peuvent pas bénéficier eux aussi de tous les avantages des Golden Knights et d'être très compétitifs dès le départ. Et de toute façon, quand on parle d'un gardien de but, ça permet aussi d'en choisir quelques-uns au repêchage et d'en développer des jeunes sous l'empreinte de Carey Price, sous son leadership, son expérience. Il peut partager ça. On peut espérer que Price va être bon encore pour quelques années. Peut-être pas 5 ans,
bien sûr.
Mais quelques années encore. Donc, il pourrait vraiment aider cette équipe-là aller immédiatement à un niveau d'aspirant. Martin l'a dit plus tôt. Moi, je ne crois pas à dépenser 10 millions de dollars sur un gardien de but. Parce que ça a été prouvé avec un gars comme Jordan Binnington que tu peux gagner avec un gardien de 700 000 puis il est allé jusqu'au bout. Puis avec Matt Murray, avec les Penguins de Pittsburgh aussi. Mais ce qui est important dans le cas de Price, c'est que c'est un joueur qui est reconnu mondialement comme un des grands de l'histoire, qui n'a pas encore connu le succès de la Coupe Stanley, mais qui pendant 15 ans domine la Ligue nationale. Alors, le Kraken comprend que ça peut avoir un impact très important sur la mise en marché de cette équipe-là et sur aussi les joueurs qui vont sélectionner et comment ils vont former leur équipe.
Ray, je veux qu'on se parle des Olympiques parce que ça commence vendredi et j'ai l'impression que la COVID a affecté ces Jeux-là comme aucun autre événement dans le sport mondial.
Ben, c'était d'abord remis d'une année. C'était déjà parmi quelques rares événements comme l'Euro, comme Wimbledon qui était annulé. Bon, ça, c'est une chose. Mais la difficulté, le chemin nébuleux qu'ils ont dû entreprendre pour arriver à vendredi soir prochain. Et hier, on apprend qu'il y a déjà 40 cas de COVID détectés entourant les Jeux.
Et incroyable.
Des judokas de l'équipe du Brésil, 49 tenus en isolation. Non, mais ça va vite, là.
Vous avez vu ce matin, là, il y a 3 gars de la même équipe, donc on parle d'une éclosion. Et là, les Olympiques se demandent comment là, ils vont gérer ça, parce que là, on parle d'une éclosion, pas des cas éparpillés un peu partout. Trois gars, même pays, même équipe. Ouais.
Exact. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que les conditions doivent changer en cours de route. Finalement, c'est un retour en arrière. C'est un retour de ce qu'on a vu dans le baseball il y a un an, plus, puis ce qu'on a vu dans d'autres sports, où là, soudainement, on a plein de situations qu'on s'attendait à voir un peu, mais qu'on n'a jamais vraiment gérées. Et là, les hôtels deviennent des centres d'isolation. Il faut servir du service à la chambre, du room service, plutôt que de sortir les athlètes de là. Mais il y a des compétitions qui vont commencer. Ça va être très compliqué dans les prochains jours. Mais on est allé jusqu'au bout parce qu'on ne voulait pas laisser l'argent. On a laissé l'argent dominer sur le plan humain parce qu'il y a trop d'enjeux. Puis n'oublie pas, là, pas de spectateurs japonais, pas de spectateurs étrangers. C'est 820 millions de dollars de billets qui vont être remboursés ou qui ne seront pas récupérés comme argent. Plus la commandite, plus tous les autres coûts pour étirer. Puis finalement, on se rend compte qu'au Japon, on n'est même pas heureux d'accueillir les Jeux cette semaine. Les gens auraient voulu que ça soit annulé de nouveau.
Exactement, oui.
C'est vraiment compliqué ce qui se passe là. C'est une situation jamais vue dans notre vie. Les réseaux vont tout faire pour diffuser un produit de qualité à la télé, bien sûr. La condition physique en place pour les athlètes, ça va être vraiment bizarre. Sans soutien, sans support. Ils vont être seuls, ils vont être isolés. Ça n'a rien à voir qu'un village olympique habituel qu'on connaît, qui devient littéralement, excuse l'expression, un party pendant 2 semaines. Ouais. Tu sais, à part du moment où les athlètes s'entraînent, c'est un moment dans leur vie où ils peuvent socialiser avec le monde entier. C'est une célébration de ce mouvement-là. Mais là, ça ne sera pas ça. C'est comme si on va y aller péniblement en marche arrière là, pour essayer de traverser ces deux semaines-là sans trop de difficultés. Puis passer à autre chose à Beijing au mois de février prochain.
Oui, puis écoute, la cérémonie d'ouverture va être longue en tabarouette. S'il faut qu'en plus, déjà que ça peut être long, s'il faut que tous les athlètes soient à 2 mètres de distance en plus, ça va prendre 4h30 les faire entrer dans le stade, ça va être épouvantable.
Imagine la traque aux 100 mètres.
on va y aller rapidement avec la NFL parce que les camps débutent bientôt. Et c'est l'occasion de regarder comment la COVID a quand même fait mal aux clubs financièrement en 2020, même s'ils ont joué. Donc, les revenus nationaux sont surréels. Et l'avenir est quand même rose pour la Ligue.
Bien, on se rappelle de Tom Brady qui gagne le 7e Super Bowl de sa carrière, puis on est déjà rendu en juillet, puis les camps d'entraînement commencent pour la première fois pour 29 équipes en même temps le 27 juillet prochain. C'est la première fois qu'on fait une date pour tout le monde, sauf 3 équipes parce qu'ils commencent leur saison plus tôt. Les Cowboys, les Steelers et les Buccaneers. Ouais. Alors, c'est vraiment unique. C'est dans 2 semaines, là. La NFL commence dans 2 semaines. Et le camp d'entraînement, ben ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible dans une saison. Ça dure 6 semaines. Les joueurs s'entraînent 2 fois par jour. Ils ont des règlements très stricts par rapport à l'équipement puis par rapport au nombre de jours où il y a du contact physique. Mais c'est pénible parce qu'il fait chaud aux États-Unis. Et les joueurs trouvent ça éprouvant physiquement. Mais en contrepartie, ce qu'on regarde, c'est les finances de la Ligue. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive au début du camp d'entraînement, c'est le jour de la remise du gros chèque qui est le résultat financier de l'année précédente. Et cette année, les 32 équipes vont recevoir un chèque de 309 millions de dollars chacun. Avant même que la saison débute, il y a 309 millions de dollars par équipe remis grâce au succès des revenus nationaux. Diffusion télé, médias, les produits dérivés vendus dans le monde entier, les commandites nationales. Là, on ne parle pas d'argent dans les billets dans les stades, Patrick. On parle uniquement de ce qui est la gestion de Roger Goodell comme commissaire, son équipe de commercialisation.
Mais rappelle-toi, Ray, c'était une des premières ligues aussi qui est revenue à la télé où ce qu'on a dit, enfin du sport. Tu sais, les gens étaient branchés devant leur télévision.
Absolument. Absolument. Puis ils ont fait un bon travail l'an dernier de survivre pendant la pandémie. Il y a des équipes qui ont attiré des spectateurs. Puis la raison pourquoi on connaît le 309 millions, Patrick, c'est que les Packers de Green Bay sont la seule équipe de la NFL qui sont une équipe qui sont la propriété d'actionnaires public. On achète des actions de l'équipe, on les paye pas, mais à la fin, on n'a pas de retour non plus. On devient actionnaire d'un club, on n'aura jamais une scène
de ça. C'est vrai.
Mais c'est une équipe communautaire. Puis ce que je veux dire par là, c'est-à-dire on paye les actions pour participer à ça, mais c'est simplement émotivement un attachement à l'équipe. Donc, puisque c'est une équipe publique, les chiffres des Packers sortent. Puis eux, localement, ont généré beaucoup moins d'argent parce qu'ils n'ont pas vendu de billets l'an dernier.
C'est clair.
Puis ça a été pénible. Mais au niveau national, les équipes de la NFL s'enrichissent. Puis je termine en disant une chose. Ça, c'est l'avant-dernière année des revenus actuels. Mais en 2023 débutent les nouvelles ententes de diffusion. Mm-hmm. Puis ces ententes-là de diffusion, au fil des 11 prochaines années, vont distribuer 110 milliards de dollars aux équipes de la NFL.
C'est beaucoup d'argent, les amis. C'est beaucoup d'argent. On va investir, Martin, Émilie et moi, dans une nouvelle équipe.
Les gros bidous.
Ouais, exactement. Merci beaucoup, Ray, de nous avoir parlé ce matin.
Bon dimanche.
Merci, bye-bye.